pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole ? Avec cette parabole du semeur que nous connaissons bien, frères et sœurs bien-aimés, nous rentrons dans le chapitre 13e de saint Matthieu, chapitre des paraboles du royaume de Dieu. Jésus veut s'exprimer en parabole de façon à pouvoir être accessible à tous. Un peu d'étymologie, si vous le voulez bien. Parabole, ça veut dire rapprochement, comparaison. En hébreu, on dit « machal ». Machal, c'est-à-dire énigme. C'est comme pour piquer notre curiosité au vif, pour nous emmener plus loin, pour que notre curiosité intellectuelle et notre soif de comprendre les choses du royaume puissent aller plus loin. Cet homme-là n'est pas venu nous parler d'agriculture, vous en conviendrez bien, mais il est venu nous parler du royaume. Et il utilise les paraboles parce qu'il y a une comparaison, justement, entre les choses visibles, là, des champs, mais il nous parlera aussi de la parabole de la perle, de la parabole du levain, de la parabole de l'ivraie et du bon grain, etc. Il y a quelque chose qui unit les choses visibles et les choses invisibles. Et c'est ce que le psaume dit, « Je parlerai en parabole pour révéler des choses cachées. » Oui, la parabole révèle quelque chose de caché en Dieu. Il y a comme une analogie entre le monde d'ici-bas et le monde éternel, le royaume, comme une parallèle entre la nature et la grâce. La réalité, dira Benoît XVI, est parabole. Et cette réalité éclaire la nature de ce monde. C'est-à-dire que nous voyons la réalité de ce monde, mais déjà en arrière-pensée, avec un regard de foi, en disant en quoi cette réalité, cette rencontre, ces événements sont le signe de l'action de Dieu. Là, c'est les paraboles du royaume dont Jésus nous parle. Jésus est dans la maison, il sort, et puis ensuite il monte dans la barque, il sort un peu à la manière du Verbe de Dieu aussi qui est sorti, cette parole de Dieu, Dieu agit par une seule parole et c'est son Christ, et il monte dans la barque, figure de l'Église, et il enseigne les foules. Et là, cette parabole du semeur qui est vraiment extraordinaire. Elle est extraordinaire parce qu'elle parle de la fécondité de nos vies. En quoi nos vies portent du fruit. En quoi nos vies sont fécondes. Et la fécondité n'est pas seulement une fécondité charnelle, avoir des enfants, des petits-enfants, etc. Et même pour ceux qui les ont, il y a une autre fécondité, une fécondité spirituelle. Et ce n'est pas pour rien que juste avant cette parabole du semeur, il y a un épisode important où Jésus est interpellé. Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. » Et lui répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Sinon celui ou celle qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. » Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes appelés à une autre forme de fécondité, une fécondité spirituelle. Dieu a un désir de vie sur nous. Et cette parabole du semeur avec cette semence n'est pas sans nous rappeler le livre de la Genèse. Vous vous souvenez, le deuxième jour, Dieu créa les herbes des champs qui portent semence. Dieu créa les arbres qui portent semence. Et il vit que cela était bon. Il y a un désir de vie sur nous de la part du Seigneur. Et ce désir est abondant. Et ce désir ne se laisse pas arrêter par nos caprices, par le péché, par le mal, comme on le voit dans les trois premiers cas de figure, cette semence qui tombe au milieu des ronces ou dans les pierres, ou voilà, qui n'a pas de racines. Dieu continue d'appeler, continue de semer, parce qu'il voit que cela est bon. Parce que nos vies, parfois, ont du mal à comprendre que la fécondité est au rendez-vous à chaque épisode. Oui, on peut dire que ces quatre situation dans laquelle la semence tombe représente un peu les différents aspects de nos vies. Ces quatre terrains sont aussi des quatre terrains qui nous habitent. Ce n'est pas simplement une personne qui répond à un style de personne qui représente un terrain ou un autre. Non, les quatre sont en nous. La bonne terre est aussi en nous. Et il est bon de rappeler aussi comment cette parole de Dieu produit en nous des bons fruits. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez, dira Jésus. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes appelés à ne pas mettre d'obstacle à ce désir de vie, à cette profusion de la part du Seigneur. Et le Seigneur lui-même nous invite à rentrer dans une écoute de sa parole plus profonde. Et ce temps d'été est un temps particulier, non pas pour se reposer de Dieu, mais pour se reposer en Dieu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et bien souvent, j'entends dans les personnes que j'accompagne ce style de langage, « Ah, mon père, je n'ai plus mes rituels, mes horaires habituels, etc. Je n'ai pas pu prendre de temps de prière pendant les vacances parce que ce n'était pas comme d'habitude. » Alors qu'au contraire, ce temps estival nous pousse à aller plus loin, à écouter cette parole. Et pourquoi pas la reprendre, pourquoi pas consulter votre Bible et voir comment cette parabole est située à l'intérieur du chapitre 13e et en quoi elle vous parle, en quoi elle vous touche. Qu'est-ce qui en moi, ce peu de racines, cette frivolité, ce côté attiré par la distraction? Le monde agit par distraction, alors que Dieu agit par attraction. C'est pas pareil. Qu'est-ce qui en moi s'éronce, ce qui s'oppose à Dieu, le péché, le manque d'amour, la dureté de cœur, qui empêche une fécondité? La dureté de cœur ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Les manques de pardon ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes appelés les uns et les autres à nous tourner vers le Seigneur. Nous sommes appelés à demander au Seigneur sa grâce. Demandons que Jésus lui-même vienne à notre secours, qu'il puisse nous aider à ce que le bon terrain en nous, nous puissions d'abord l'identifier, mais aussi que ce bon terrain puisse porter du fruit, et un fruit qui demeure. Amen.